Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Enfin, j'étais toujours un petit peu dans le mauvais timing. J'ai été maman, voilà, trop tôt. J'ai été athlète trop tard. Parce que j'ai arrêté ma carrière, j'avais 42 ans. Ce qui est extrêmement vieux, en fait, hein, dans le sport de haut niveau et encore plus dans mon sport. Donc, j'étais jamais dans le bon bateau, en fait, mais par rapport à ce qui se faisait. Mais finalement, c'était mon timing à moi et finalement, je suis bien heureuse de l'avoir joué comme ça, en fait. Si on fait une liste d'excuses ou de prétextes pour pas faire les choses, elle est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue que celle pour faire les choses. Mais si, dans la colonne « Pourquoi le faire ?», il y a juste, je pense que le mot « envie », le mot « plaisir », le mot « rêve », voilà, ça apparaît, ça balaye tout en face.
Bienvenue sur « Pourquoi pas moi ?». Je suis Charlotte Desrosiers Natral, la fondatrice de « Pourquoi pas moi ?», l'auteur de « Et si je changeais de métier ?» et la créatrice d'un bilan de compétences « Nouvelle génération ». Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Ophélie David derrière mon micro. Un moment d'intimité unique, car sa fille était à côté de nous lors de l'enregistrement. Ophélie est l'exemple même de la personne qui a écouté sa petite voix. Elle est à sa place et assume ses envies. C'est magnifique à voir et à écouter. Elle est la plus grande championne de ski cross de sa génération, avec 7 titres de championne du monde d'affilée. Aujourd'hui, elle a pris sa retraite et a appris à se réinventer. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Ophélie David. Bonjour Ophélie.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Alors, parenthèse, en général, j'envoie toujours la question en amont, mais là, comme on se voyait en vrai, mon process d'interview a été un peu chamboulé, et du coup, je viens de te poser la question il y a 2 secondes.
Oui, c'est vrai. Et du coup, oui, bah, je te disais, j'ai toujours avec moi des petites pierres, des petits cailloux. Je sais pas pourquoi, mais j'adore le minéral. Et souvent, d'ailleurs, je ramène des petits bouts de cailloux, des galets, quand je suis dans des endroits qui m'ont marqué ou que j'aime.
Et là, du coup, les cailloux que tu as avec toi en ce moment, c'est quoi?
Alors, j'ai plusieurs petites pierres qui sont dans mon sac. Alors, c'est des pierres semi-précieuses que soit on m'a donné, soit j'ai trouvé, soit j'ai acheté. Mais en plus, je suis nulle en lithothérapie. Enfin,
ouais, dans la thérapie,
voilà,
des pierres.
Ouais. Parce que elles ont toutes des noms et des choses comme ça et je ne les connais pas.
Et des valeurs énergétiques en plus.
Exactement. Et tout ça, en fait, je sais que ça existe, mais je ne les connais pas et je connais pas bien les noms non plus. Mais juste, ben pour le coup, j'aime l'objet et j'imagine que j'aime aussi ce que ça m'apporte, mais je ne l'analyse pas, je le prends comme ça.
Et là, je vois que à ton poignet, tu as un bracelet avec que des pierres.
Ben oui, oui. Alors ça, c'est un cadeau que m'a fait ma maman. Juste avant ce printemps, j'ai fait le tour de la France en vélo, en autonomie, en solitaire, et elle m'a offert ça la veille du départ. Et bon, donc je l'ai gardé.
Alors moi, je suis nulle en pierre, mais je sais qu'il y a des œils de bœuf, ouais, ça, celle-là.
Ouais, là, turquoise, j'imagine, ça, c'est quoi, cristal,
on mettra la photo.
Rose, ouais,
parce que
voilà.
Moi, j'ai le plaisir de t'avoir en face de moi, mais c'est le petit inconvénient du podcast. Et est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi?
Oui, alors j'ai eu la chance de grandir dans différents endroits. Je suis née dans le Nord-Pas-de-Calais, à Étaples-sur-Mer. Ensuite, j'ai grandi à Ajaccio, en Corse. Et j'ai fini, la fin de mon enfance, le début de mon adolescence, dans les Alpes, à l'Alpe d'Huez exactement. Et voilà, j'ai toujours été, balancée entre la Corse et les Alpes pour grandir.
Et pourquoi t'as bougé autant?
Mon papa était joueur et entraîneur de basket et on a beaucoup déménager au rythme de ses contrats.
Et donc le sport a fait partie de ta vie depuis toute petite, j'imagine.
Oui, c'est vrai que le sport a toujours été, je crois, un pilier d'éducation pour mes parents. Mon papa était donc un grand sportif, ma maman pas du tout, elle était éducatrice spécialisée. Mais oui, ça faisait partie des outils qu'ils avaient mis en place pour m'élever. Ouais.
Et quand t'étais petite fille, t'étais quoi comme type de petite fille?
Alors, ben, j'étais un garçon manqué. Enfin, c'est ce qu'on me répétait sans arrêt. Et moi, je me trouvais pas forcément garçon manqué, mais c'est vrai que j'avais toujours les genoux écorchés. En grandissant en Corse, je me faisais toujours des cabanes dans le maquis. On a habité aussi un an sur un voilier, donc j'étais tout le temps en train de grimper comme un petit ouistiti de partout. Donc en fait, je comprenais pas trop cette expression de garçon manqué, parce que moi, je trouvais que j'étais juste une petite fille qui aimait bouger, vivre... Oui, je jouais à la poupée, mais j'étais pas hyper fan. Ouais, je préférais être dehors. Voilà. Donc, j'étais une petite fille comme ça.
T'avais quel âge, du coup, quand vous avez fait un an sur un bateau?
J'avais 6 ans. Ouais.
Donc, du coup, c'était la maman qui te faisait l'école?
Non, on habitait sur le bateau.
D'accord. Ah, vous
mais
habitiez...
le bateau était au port.
Ok. D'accord.
Donc non. Mais par contre, j'ai effectivement goûté à l'école par correspondance, mais bien plus tard, puisque j'ai fait ma première et ma terminale par correspondance, et j'ai donc passé mon bac en candidate libre.
Pourquoi ?
Pour le ski. Ouais, tout simplement pour le ski. C'est vrai qu'arrivé à un certain niveau, on est tout le temps sur la route. On va de station en station. Le gros de la saison, bah, c'est l'hiver, et ça correspond au deuxième trimestre. Donc tout ça est un petit peu compliqué. Donc soit on rentre dans ce qu'on appelle un lycée d'été, c'est-à-dire que les grandes vacances sont l'hiver, et par contre on est juillet-août à l'école. Moi j'aimais bien, j'ai toujours été attachée à la Corse, donc c'est vrai que l'été pour moi fallait que j'aille sur l'île. Et bon voilà, l'école par correspondance, je me rendais pas bien compte dans quoi je m'embarquais, mais finalement je trouvais le concept vachement bien et finalement ça a fonctionné. Ouais.
Et alors du coup le ski, à partir de quel moment il est rentré dans ta vie? Parce que au début t'étais loin des montagnes.
Bah ouais, j'étais très loin des montagnes. Petite, je me suis jamais imaginée championne de ski. Mais
c'était quoi d'ailleurs tes rêves quand t'étais petite?
Oh, tu sais quoi, je voulais être dans l'espace. Je rêvais de sentir la sensation de voler. Donc je disais à tout le monde que j'allais être cosmonaute. Bon voilà. Tu me diras après avec les sauts, des fois je volais
c'est
un
clair.
Petit peu en ski.
Ah bah
ski,
complètement, hein. Ouais.
Mais donc voilà, j'avais aucun attache. Je dirais direct avec les montagnes, mais par contre, mes parents avaient acheté un studio à l'Alpe d'Huez et on y allait tout le temps. J'ai été vraiment une petite fille très gâtée, puisque que ce soit pour les vacances de Noël, de février et de Pâques, on allait tout le temps à l'Alpe d'Huez, qui est où que l'on soit domicilié. Et donc après, quand on a déménagé, on a habité ce fameux petit studio. Et là, heureusement, du coup, qu'on avait gardé 2-3 réflexes d'avoir habité sur un bateau, parce que l'espace était ultra restreint. Mais voilà.
Et à partir de quand t'as compris que t'avais une vraie prédisposition pour le ski?
Je crois que je l'ai compris assez tard, parce que je me rendais pas compte de ce que je m'étais pas projetée championne. Pourquoi j'allais skier, pourquoi j'allais au ski club, je m'entraînais, tout ça, parce que j'aimais physiquement en fait ce que le sport m'apportait, et j'avais un plaisir énorme en fait à aller glisser. Et j'ai mis vraiment, je crois, sincèrement, je crois que j'ai réalisé sur une course de ski cross, donc c'est tard, et où je fais un podium, il me semble. Enfin, je me souviens plus du tout des résultats, mais je me rappelle que c'était sur le glacier des Deux Alpes, et je m'étais dit, en fait, je vaux peut-être quelque chose. Mais ça a été furtif, parce que même après en carrière, par exemple, j'ai gagné des globes de cristal, donc ce qui équivaut au championnat sur tout l'hiver. Je soulevais le trophée, j'étais hyper heureuse, je partageais ça avec mon équipe, c'était génial. Et puis, peut-être le lendemain ou 48 heures après, je me disais déjà, ouais, non, mais là, j'arriverai jamais à récidiver, c'est pas possible.
Donc,
t'en as eu combien de globes de cristal?
J'en ai eu 7.
Waouh. Ouais. D'accord. D'affilée?
Comment?
D'affilée ou il y a eu des pauses?
Oui, d'affilée. Ouais. Ouais, d'affilée. Après j'ai été sur le podium plusieurs fois, 2, 3, et après ça a un petit peu dégringolé. Parce que là, je vieillissais et la concurrence arrivait. Donc après, il y avait d'autres objectifs qui rentraient. C'était rigolo, c'était une autre manière de gérer la carrière. Où là, je me disais, bon, je peux plus jouer sur la longueur. Mais par contre, sur des one-shots, en pointant du doigt vraiment des événements sportifs que je voulais réussir et cocher. Et du coup, bon, c'était une autre manière de jouer, mais qui était super cool aussi. Ouais. C'était marrant.
Et donc là, du coup, tu commences à faire de la compétition. Mmh. Et à partir de quand tu te dis bah ça va être je sais pas si t'as fait un sport études ou
ouais. Oui, j'ai fait sport études pendant 2 ans avant de basculer en par correspondance. Là je faisais du ski alpin.
Et du coup t'étais basée où, à l'Alpe d'Huez?
Toujours, ouais, toujours sur l'Alpe. En tout cas, par contre le sport études que j'ai fréquenté était à Villard-de-Lans. Okay. Ensuite, je suis partie 2 années sur le Pro Tour aux États-Unis. Donc ça a été aussi une très très belle expérience, parce que en fait jusque-là, bon bah, je travaillais un peu l'été, j'aidais mes parents, mais ça leur coûtait. C'est quand même un sport onéreux. Et là, de partir sur le Pro Tour aux États-Unis.
C'est quoi le Pro Tour ?
Alors le Pro Tour, c'était, parce que ça n'existe plus, un circuit en fait où l'on s'inscrivait, qui était donc ouvert à tous. Et ça se concourait en parallèle, et au fur et à mesure qu'on passait des tours, on gagnait de l'argent en fait, jusqu'à avoir le gros lot si on était le vainqueur. Et c'était un programme télé.
D'accord.
Donc il y avait tout un circuit aux États-Unis qui fonctionnait comme ça, et moi c'est la première fois. En fait, ça a été à la fois une émancipation, ça a été une vraie émancipation financière.
Avec quel âge?
Là j'avais 19 ans. Et à partir de ce jour-là, en fait, je n'ai plus, enfin, voilà, j'étais indépendante. J'ai gagné ma vie avec ma passion. Et ça a été quand même un point de bascule, quand même. Je me suis dit, ah ouais, c'est chouette. Là, j'ai de la chance. Je vis de ma passion. C'est énorme. Donc là, j'étais vraiment très, très heureuse. Mais c'est vrai que encore une fois, je n'imaginais pas, j'étais dans le jeu, j'étais dans le plaisir de skier, mais encore une fois, j'arrivais pas à me dire, je suis forte, je vais être championne. C'est fou, hein. Je me rends compte que c'est dingue. Mais c'était.
Et peut-être que si ça avait été dans cette énergie-là, peut-être que ça aurait pas fait tout ce que t'as fait.
Oui, peut-être. Peut-être que si j'avais couru, ne serait-ce que seulement après un titre, le jour où je l'aurais décroché, peut-être que ça m'aurait coupé les ailes, en fait. Et là, c'était pas le cas. Là, c'est vrai que ces trophées que j'ai réussi à glaner tout au long de ma carrière incarnent et ponctuent des moments, me rappellent à un certain staff, à certains collègues que j'avais en équipe. Enfin voilà, ils incarnent vraiment ça. Mais comme c'était pas une finalité, j'étais pas essoufflée de gagner des titres.
Ouais,
en fait.
Ouais, et puis ça te mettait pas une pression malsaine non plus, du coup.
Pas malsaine, mais la pression misère. Ouais. On la mettait toute seule. C'est
un truc de malade. Et comment tu te faisais du coup coacher, entre guillemets, ou t'avais des coachs mentaux, physique.
Ouais, alors physique toujours, technique en ski aussi. Les coachs mentaux sont arrivés un peu plus tard dans ma carrière. Comme je te le disais, hein, mon papa était basketteur. Ça a été quelqu'un qui m'a insufflé pas mal de sa philosophie, et j'avais du coup une boîte à outils assez fournie déjà. Et puis ça va la faire rire parce qu'elle est là, mais j'ai toute ma carrière en ski cross, j'ai été maman, et c'est vrai que. Déjà, ça te met un pas de côté, un recul.
À quel âge t'as été maman ?
À 23 ans. Et par contre, je parlais des fois avec Lilou, donc ma fille, de mes doutes, de mes peurs, de mes échecs, de toutes ces choses qui finalement, d'habitude, sont cachées aux autres. Mais là, l'amour qui unit un enfant et ses parents, en fait, est tellement, brut, solide, n'a pas besoin de paillettes, quoi, que je savais que quoi que je fasse, titrée, pas titrée, victorieuse ou perdante, ma fille m'aimait, tout simplement, parce que j'étais sa maman et que ça suffisait à...
Elle est à côté de nous.
Elle est à côté.
Tu confirmes, avec son sourire, elle confirme.
Et en fait, donc des fois, donc j'avais Lilou au téléphone elle a toujours trouvé des mots et elle avait une lecture super simple, super saine, super naturelle aux choses. Et elle m'a fait, sans le savoir, beaucoup, beaucoup de bien. Ensuite, voilà, sont quand même rentrés dans la danse des sophrologues. Moi, ce qui a beaucoup marché, parce que je suis pas très scolaire, j'ai vraiment de la peine avec les choses très rigides, très rythmées, quand c'est trop comme ça orchestré, ça m'étouffe un peu, ça me fait peur. Donc voilà, fallait un petit peu d'instinctif, d'animal presque. Et ben du coup, ce qui me correspondait le plus, c'était l'hypnose active. Et ça a été, ça m'a bluffé et ça m'a beaucoup aidé aussi sur la fin de ma carrière.
Ouais, ça, l'hypnose, c'est incroyable. Ça permet de refaire sortir des choses. Mais moi, j'ai été hypnotisée là il y a 15 jours parce que ma psy fait de l'hypnose et de l'EMDR. Mais elle m'a, enfin, j'ai vécu un moment où, en fait, ça m'a ouvert les yeux en me disant, mais waouh, Charlotte, enfin, t'es vraiment, mais trop gentille. Faut que tu muscles ton jeu là, parce qu'en fait, t'es beaucoup trop gentille. Là, stop.
Oui, il y a de ça, mais il y a un côté. En fait, on se rend compte de la puissance du subconscient.
Ouais.
Et on se rend compte de la puissance de son cerveau et on se rend compte de notre incapacité à le maîtriser surtout. Et j'ai trouvé que en ça l'hypnose active était extraordinaire. Il y a un côté magique. Enfin bref, voilà, ça, c'est, voilà. Non, c'était des chouettes expériences et j'avoue que là j'en fais plus, mais je me sers de ces expériences. Mais je pense que je vais y retourner là.
Ouais, explorer des choses.
Ouais.
Et quand t'es devenue maman, j'imagine qu'il y a des gens qui t'ont dit, mais waouh, pour ta carrière, c'est pas le moment.
Ouais. Alors, ben, tout du long, en fait. J'étais toujours un petit peu dans le mauvais timing. J'ai été maman, voilà, trop tôt. J'ai été athlète trop tard.
Pourquoi trop tard?
Parce que j'ai arrêté ma carrière, j'avais 42 ans. Ce qui est extrêmement vieux en fait dans le sport de haut niveau et encore plus dans mon sport. Donc j'étais jamais dans le bon bateau en fait, mais par rapport à ce qui se faisait, mais finalement c'était mon timing à moi et finalement je suis bien heureuse de l'avoir joué comme ça en fait.
Ouais, parce qu'en fait aujourd'hui tu as eu tous les titres que tu pouvais avoir sauf les Jeux Olympiques.
Absolument. Ouais, j'ai tout gagné sauf les Jeux. Ouais.
Les JO, t'as fait quelle ville, pays?
Alors, j'ai fait Vancouver, Sochi et Pyeongchang. Et en alpin, j'ai fait Lillehammer.
Parce que du coup, c'était en cross que t'as fait.
Voilà, en ski cross. Ouais. En ski cross et c'est effectivement dans la famille du freestyle.
Et t'as eu du coup aucune médaille olympique?
Si, j'ai eu chocolat.
C'est quoi? Ah oui, c'est mignon.
J'ai eu la médaille en chocolat 4e et c'était à Sochi.
D'accord. Ouais. Et ça, comment tu l'expliques que t'es tout gagné sauf les JO?
Écoute, je crois que... Oh, j'ai pas vraiment la réponse, ça pourrait être que des suppositions, mais effectivement j'aime passionnément cette compète et je crois que j'y mettais peut-être trop d'affect. Comme je sentais que je mettais trop d'affect, par exemple sur Vancouver, j'ai voulu tout couper en disant non, c'est un départ, une ligne d'arrivée, des modules au milieu, c'est comme d'habitude. Mais en fait, non, c'est pas comme d'habitude, c'est les JO. Donc, je me suis complètement loupée. À Sochi, je me suis complètement déconnectée de l'instant. Je me suis projetée. J'étais déjà en train de calculer le move d'après où je pouvais doubler parce que je savais que j'avais les meilleurs chronos. Blablabla. Bref, mon cerveau n'était pas là. Et j'ai fait une erreur basique, débile, qui m'a coûté cher. Et à Pyeongchang, j'étais en fin de carrière, donc j'étais vraiment dans cette logique du one shot. Je me sentais très bien. En même temps, je me disais, oula, danger, sois pas euphorique. Donc franchement, tout était réuni et pourtant, je me fais les croisés alors que je ne me suis jamais fait les croisés en 15 ans de carrière.
Les ligaments croisés.
Ouais.
Pendant la compète?
Ouais, à l'entraînement, donc oui, enfin le premier jour de compète. Et en fait, là, ça reste un espèce de mystère. Je me suis pressé le cerveau pour essayer de comprendre pourquoi ça m'était arrivé. J'ai essayé de, franchement, je me suis regardée au fond des yeux, au fond du cœur, au fond de l'âme, en me disant, est-ce que tu voulais vraiment y être? Est-ce que tu t'es menti? Et non, j'avais envie d'y être. Je voulais vivre ce moment-là. Donc,
T'as regardé là, il y a un livre qui s'appelle Le Dictionnaire des mots et des malaises. Enfin, j'arrive jamais à retrouver le nom.
Le mal a dit.
T'as un vrai dictionnaire qui te permet en fait de dire, ok, t'as tel mot que ton corps te dit.
Ah oui.
Et qui t'explique en fait le pourquoi, comment.
Bah tout ce qui est genou, a priori, c'est le refus de fléchir. C'est le refus. Enfin, c'est un refus de. Voilà, qui en gros qu'on va pas dans la même direction. Donc c'est pour ça que vraiment je me suis questionnée.
Ouais, c'est ce
que tu dis, Et franchement, je voulais y être. Ouais. J'avais envie d'y être et j'étais heureuse d'y être. Donc je sais pas pourquoi je me suis laissée. Peut-être je saurais, peut-être jamais, et puis peut-être ça a été vraiment qu'un accident. Ça, j'ai du mal à l'admettre, mais franchement, comme je trouve pas de raison, ben je me dis que c'est peut-être juste un vrai accident.
Est-ce que t'as quelque chose de beau qui est arrivé derrière?
Ben moi, j'ai l'impression que depuis le début, il m'arrive des trucs beaux, tu vois. Donc en fait, je trouve que je fais partie des chanceux qui ont une belle vie, riche d'émotions, de lieux, de personnes, de rencontres, d'échanges. Donc est-ce qu'il y a, ça a été encore mieux après? Bah alors je vais remettre Lilou sur le tapis, mais oui, on a vécu un truc cool, on s'est retrouvés en centre de rééducation ensemble, mère-fille, c'était une première. Ils avaient jamais vu ça au centre de rééducation à Hauteville. Non, mais je sais pas, peut-être.
On dit qu'il y a toujours un cadeau mal emballé derrière chaque situation.
Ouais. J'ai peut-être accepté. Tu l'auras compris, hein, je suis pas quelqu'un qui déborde de confiance en elle. Et puis c'est vrai que c'était une espèce de course en avant, hein, je gagnais ces titres, je me disais, ouais, pour l'an prochain, c'est pas gagné du tout, faut tout repousser, tout remettre à plat, repartir. Donc cette blessure a mis, mais je mettais un terme de toute manière à ma carrière, je l'avais annoncé. Et c'est vrai que cette blessure a aussi mis un terme à peut-être cette course en avant, à vouloir être forte, à vouloir être. Je sais pas, oui, peut-être que je courais après une chimère et que cette blessure m'a juste expliqué que même un peu écorchée, boitante, bancale, je valais quelque chose, mais je sais pas. J'en sais rien.
Et donc du coup, une fois que t'as fini ta carrière de ski, bon, tu continues quand même à faire des compétitions. Là, t'avais fait le Vars là.
Ah, le challenge des moniteurs.
Le challenge des moniteurs.
Oui.
Où t'as gagné d'ailleurs un.
Oui. Chez les vieilles et le ski cross.
Chez les moins jeunes.
Non, oui, mais c'est vrai que il y a que l'année où je me fais les croisés où je ne vais pas au challenge des moniteurs. Ça, c'est un rendez-vous incontournable auquel j'adore participer. Voilà, pour les auditeurs, c'est le championnat de France de tous les moniteurs de ski de France sur tous les engins qui glissent, snowboard, nordique, ski de rando, ski alpin, freestyle, enfin voilà, et tous les âges, puisque ça part du stagiaire, ils ont entre 18 et 20 ans, et ça va jusqu'à une course qu'on appelle la Gaston Catiard, et c'est des moniteurs qui ont 80 ans.
Génial.
Et c'est absolument extraordinaire parce que il y a plus de frontières entre les engins de glisse, il y a plus de frontières générationnelles, tout le monde est là pour le même amour de la glisse. L'amour du partage est saupoudré d'un gros truc festif et franchement c'est génial. J'adore.
Il y a une ambiance enfin moi j'étais à Vars la semaine d'avant, enfin on est parti genre je pense le lendemain, la veille du tu sentais une euphorie dans la station, c'était génial. Ouais.
Oui, c'est la grande messe des amoureux du ski et c'est vrai que c'est aussi l'occasion de retrouver les copains qui font les saisons dans d'autres stations. Ouais. Et non, c'est génial.
Et donc là, depuis le ski, de quoi est fait ta vie? Toujours un peu de ski, j'imagine.
Ah oui, 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 ouais. Oui, toujours du ski. Je suis toujours, bah, je suis monitrice de ski. On vient d'en parler et j'enseigne pendant les vacances.
Donc, du coup, t'enseignes, entre
guillemets. Je suis à l'ESF de l'Alpe d'Huez.
Mais n'importe qui, tu peux.
Absolument.
Ah, donc, n'importe qui peut avoir l'opportunité et la chance de t'avoir comme un autre. De fou, quoi.
Absolument. Je suis partie de l'école. Donc, j'ai une monitrice parmi d'autres.
Ouais, donc, t'es pas forcément cours particulier. Ça peut être.
Non, mais on peut après me demander en cours particulier. Moi, ça, c'est complètement possible.
Donc, si vous allez à l'Alpe d'Huez, voilà. Sachez Ophélie et
c'est ça. Et puis j'ai ma boîte d'événementiel. Alors c'est tout petit hein, parce que c'est moi tout, et moi et moi. Mais donc je suis toute seule. Mais par contre, j'embauche des prestataires et on.
Et du coup, tu fais quoi comme type d'événement?
Bah là, c'est plutôt de l'outdoor et c'est plutôt dans les montagnes puisque c'est là où. Où je suis le plus crédible et c'est là où il y a tout mon réseau. Mais j'aime bien me challenger. Et du coup, bah c'est vrai que si j'ai des opportunités ailleurs, ça me ferait très très peur, mais je dirais oui et je foncerai, ça c'est sûr. Et j'adore en fait monter ces événements parce que je trouve qu'il y a rien de plus joli que le sourire des personnes à la fin de la journée et tu te dis tiens, j'ai offert des beaux souvenirs quoi. Mmh. Et ça c'est, je trouve que ça a pas de prix. J'adore ça. Et là, tout récemment, avec mon ami, on a créé notre entreprise d'édition et on va cet hiver publier deux gratuits, l'un à l'Alpe d'Huez et l'autre à la Clusaz. Donc là, c'est aussi une sacrée aventure.
Donc c'est des gratuits où il y aura quoi dedans?
Alors on va surtout mettre en avant, je dirais, la richesse de la station qui accueille tous ces touristes. Vraiment, on espère que les lecteurs, en feuilletant les pages du magazine, vont se rendre compte de la richesse du territoire sur lequel ils sont, que évidemment, c'est absolument merveilleux de skier, de la féerie du Blanc, etc. Mais vraiment, la richesse de ces endroits, c'est la faune, la flore, les habitants, le savoir-faire, le terroir. Et on a envie de montrer tout ça à travers notre magazine gratuit. Donc, il y a de très très belles histoires qu'on a envie de partager avec les personnes qui vont venir en vacances chez nous.
Et du coup, ça s'est financé, j'imagine, par des partenaires locaux, des.
Oui. Ouais. Oui, absolument. C'est en fait, on vend les espaces pubs et ça, voilà, ça finance le magazine. Et puis nous, ça nous permet. On a aussi du vrai rédactionnel. On a du publi-rédactionnel, c'est-à-dire une histoire couplée à de la publicité. Mais en tout cas. On met beaucoup d'énergie pour faire en sorte que ce magazine gratuit ne ressemble pas à un gratuit, qu'il soit beaucoup plus intelligent que ça, qu'il soit plus drôle, qu'il soit plus beau. On a vraiment envie que les gens l'emmènent avec eux parce que ça va leur rappeler « Ah bah oui, regarde le resto où on a mangé. Ah bah oui, regarde, c'est là qu'on a skié. Ah bah oui, nous aussi, on a vu le chamois là-bas. » Enfin. Ouais, la montagne, c'est tellement riche. Et on a envie, que ce soit
de leur faire vivre une expérience parce qu'ils auront eu les coulisses de tout ça.
Oui, aussi, ouais. Se rendre compte de la richesse aussi des habitants qui sont là-bas. Il y a des trajectoires incroyables, des personnages, mais c'est des romans à eux seuls. Et voilà, on a envie de mettre tout ça en avant.
Donc là, ça va sortir avec l'ouverture des stations en décembre.
Ouais, absolument. Les magazines seront livrés la semaine du 12 décembre. Juste avant les vacances.
Vous en êtes où là du coup par rapport à ce projet? Parce que là aujourd'hui on est le 21 octobre.
Ouais, bah tu vois, c'est il y a le tic-tac qui s'accélère. On commence beaucoup de choses sont bouclées et puis il y a encore de la commercialisation en cours et il y a encore des pages de pub à récupérer à droite à gauche par nos fournisseurs et puis là c'est un peu le rush. Ouais. J'avoue, c'est un peu stressant.
Et les événements t'en fais à quelle fréquence?
Oh, j'en fais pas beaucoup, j'en fais deux par an là aujourd'hui.
D'accord.
Donc ouais, c'est quand même
le prochain il est
tranquille.
Quand
le prochain sera fin janvier et le suivant il est en mai.
D'accord. Il y a encore des places pour les personnes qui auront envie de si les personnes qui nous écoutent et qui se disent oh, je rêve d'aller faire participer à ce type d'événement.
Oui, alors en fait c'est des événements que j'organise pour des clients, donc en fait c'est pas vraiment sur invitation. D'accord. Mais bon. Ouais, tout de même, je partage tout sur mes réseaux. Donc
ok, de toute façon, on mettra tous les liens.
Ça marche.
Et quand tu lances ces nouvelles initiatives, comme tu disais tout à l'heure, t'as pas une confiance en toi démesurée, comment tu fais pour justement dépasser tes peurs et y aller?
Je me laisse pas le choix. je me laisse pas trop le choix. Et puis, ben, depuis le temps, j'ai envie de te dire, c'est, j'ai compris, en fait, un peu le processus et je sais que, ben voilà, je passe par une phase d'euphorie, que je suis là, je me dis, waouh, on va faire ça, 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 ça. Je m'emballe un peu. Après, je me mets sur une feuille blanche et je suis en train et là je me rends compte tout ce qu'il faut mettre en place pour réaliser les choses auxquelles j'ai pensé. Là, je me dis oh, ah non mais là en fait c'est pas possible. Donc là j'ai une phase un peu de digestion où limite je retouche au crayon et au papier. Et puis petit à petit j'attrape un fil et je tire et je débousse voilà je défais ma pelote et puis je me dis ah mais tiens un tel pourrait faire ci un tel pourrait faire ça. J'essaie de pas faire trop de compromis par rapport à l'idée de base. Mmh. J'essaie de la laisser brute, intense, comme elle était. Bon, après, des fois, voilà, on est un petit peu obligé. T'as souvent la pression financière qui vient édulcorer tout ça, mais voilà. Et puis, à un moment, voilà, les jours passent et comme là, hein, la sortie des magazines, ben, ça avance. Puis il y a des choses à faire et à un moment, t'as juste plus le choix. Et à ce moment-là, je me mets un peu en mode bulldozer et je rentre dedans et boum, 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 et ça part et au moment du démarrage, j'ai une boule au ventre astronomique. Je me dis que voilà, j'ai pas assez bien fait les choses, que ça va pas, que si c'est pas si, enfin voilà, je m'auto-flagelle un petit peu et puis finalement, je me rends compte que ben ça passe, que finalement les gens sont bien moins exigeants où moi je voyais des problèmes, ils en voient pas du tout, enfin et du coup ça passe fluide et quand on fait les débriefs après les événements, bah il y a des choses à améliorer, mais souvent c'est des détails et le fond en fait tenait la route. Et je me dis ouf, bah je m'en suis bien tirée, ça va, j'ai de la chance. Et rebelote pour le truc d'après, je m'enflamme, je me chie dessus, et c'est parti. Mais bon.
Et voilà. Justement, financièrement, ça gagne bien sa vie un champion de ski. Enfin, championne, parce qu'en plus, sait que les hommes et les femmes sont pas payés pareil, forcément, dans tous les sports.
Ouais, ouais. Alors, nous, on a les mêmes primes de course par la Fédération Internationale de Ski. Par contre, les contrats de marque, effectivement, il y a des grosses disparités. Donc, c'est assez drôle. Le monde de la montagne, du ski, c'est un milieu très masculin, mais pour autant pas du tout macho, je trouve. Moi, là où, les seules fois où j'ai été confrontée, à du sexisme, finalement, ça a été quand j'étais face à des entreprises.
Ouais, parce que du coup, tu donnes des conférences.
Oui, non, ou même quand je devais signer mes contrats et discuter de mes contrats. Clairement, si j'avais été un garçon, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Vraiment. Est-ce que on gagne bien notre vie? Oui, parce que par exemple moi, quand j'étais en carrière, je ne faisais que ça, ce qui est clairement un luxe hein, pour un sportif de ne pas avoir à travailler à côté.
J'avais interviewé Laura Di Muzio qui a été championne de France de rugby, ouais. Et clairement, elle était obligée d'avoir un job à côté.
C'est
quoi.
Ça. Ouais. C'est pour ça que je te dis, moi, j'en vivais, et donc je faisais partie des nantis. Par contre, je suis pas riche aujourd'hui. Enfin, je dois travailler. Par
oui. ouais, tu peux pas te dire à la fin de ta carrière.
Entière. Non. Après, voilà. Encore une fois, je pense que ça dépend de quel pays. Ça dépend, oui, de quel sexe tu. c'est très variable, mais globalement. En carrière, on arrive quand même à en vivre, ouais. Les skieurs. Mais derrière, faut se remonter les manches. Voilà.
Oui, t'as personne qui... De toute façon, t'as pas forcément envie à 43 ans de dire j'arrête de bosser. Et deux...
Ça m'aurait pas déplu, hein. Tu sais, de juste ne pas avoir cette pression financière et de pouvoir juste investir dans les trucs qui te tiennent à cœur. Ouais. Et tu vois, de se couper de l'alimentaire, ouais. Je trouve que c'est quand même un peu l'objectif d'une vie, quoi. Mais en même temps, j'aime bien... Enfin, qu'il y ait un petit peu de piquant, comme ça, un petit peu de précarité. Parfois, ça fait du bien parce que ça remet aussi la juste valeur aux choses.
Carrément.
Et donc, c'est bien de devoir travailler. Ouais. Je trouve.
Non, mais je suis d'accord. Hein. Clairement, il y a des moments dans ta vie où tu te dis, t'as un super train de vie qui descend du jour au lendemain. Mmh. Et en fait, tu te dis, quand il reviendra, ça sera, t'en profiteras encore plus. Ouais. Et puis, ça te permet aussi de te dire, est-ce que ça, c'est vraiment essentiel dans ma vie? Et tu te dis, oui. Mais non, pas
mais
du tout.
Mais c'est ça, absolument. Ouais, non, mais c'est absolument ça. Et puis, il y a des euros qui sont plus simples à gagner que d'autres. Mm. Et voilà, et je trouve que, avoir la juste valeur des choses, c'est bien. C'est bien. Ça nous permet vraiment, je crois, d'appréhender,
ben la société, les échelles de valeurs, nous par rapport aux autres pays dans le monde, etc. et tout ça. Si on n'a pas les pieds sur terre, je pense qu'à un moment, je crois réellement qu'on passe à côté de trucs. Enfin, à côté de trucs hyper essentiels. Enfin, être richissime, clairement, je crois pas. Enfin.
Mais c'est pas une fin en soi.
Mais je pense que tu peux vraiment passer à côté d'un max de choses. Je pense que c'est dommage. Après, que chaque matin, quand tu te lèves, ta préoccupation, c'est de trouver à manger.
C'est un
bien
autre,
non plus, ouais. On est d'accord, ouais. Hein, tu vois.
Il y a un entre-deux.
Mais il y a un entre-deux. Je pense que le bonheur se trouve là, ouais. En fait.
Je suis d'accord. Et dans tout ça, comment t'écoutes ton intuition?
Beaucoup. Franchement, je l'écoute beaucoup. Souvent, alors moi je parle un peu aussi de l'enfant qui est en nous, qui est en moi. Je sais que à chaque fois que je l'ai écouté, j'ai vécu des grandes choses. Donc
par exemple.
Bah par exemple toute ma carrière de ski cross. C'était pas du tout une décision logique et raisonnable.
Pourquoi ?
Parce que j'étais jeune maman, parce que j'avais un bon boulot, parce que c'était un sport qui, a priori...
Quand tu dis que t'avais un bon boulot.
J'étais entraîneur à l'Alpe d'Huez au ski club et franchement, j'avais une super génération de skieurs. Enfin, c'était génial. Je gagnais bien ma vie. J'avais ma petite fille. Toutes les cases étaient cochées, quoi. Et puis, j'annonce que j'arrête et que je vais me lancer dans quelque chose de complètement, bancal, personne comprenait, enfin
le fait de te lancer du coup dans la compète.
Ben oui, c'était n'importe quoi. Donc voilà, j'ai bien fait de l'écouter. Non, même sur plein de petites choses, je trouve que ça amène la petite touche de folie, de légèreté, le petit décalage qui fait qu'il y a un peu, les couleurs sont un peu plus intenses, que les saveurs sont un peu plus fortes et que voilà, et que la vie elle est chouette quoi, ouais. Elle est vachement chouette à vivre.
C'est sûr.
Et c'est souvent grâce à cette sale gosse là que j'écoute.
Pourquoi sale gosse?
Parce que je pense qu'il faut un côté déraisonnable, un petit peu déraisonnable, dans la mesure.
Ouais, c'est se dire que ça correspond pas aux cases, mais qu'en fait, finalement, c'est ce qui est bon pour soi et il faut y aller, quoi. Même
oui.
Si ça correspond pas aux standards de la société.
Oui, oui, l'idée, c'est pas d'être absolument un rebelle, hein. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'être capable de se dire, mais moi, j'ai envie de ça. Et ben non, ce que vous me proposez, ça me correspond pas. Le chemin, il existe pas. Ben, je vais le faire, les gars, bougez pas, hein, c'est pas grave. Non, mais voilà, alors ça... Oui, c'est un peu l'instinct, c'est un peu l'enfant en soi. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on suit cette route-là, enfin moi, là, ça, pour le coup, je suis pas sûre de grand-chose, mais ça, j'en suis sûre, on est honnête avec ce que l'on est vraiment, et du coup, on est forcément mieux dans ses pompes à la sortie, quoi.
Ouais. Et puis, comme on est sur sa voie, il y a les portes qui s'ouvrent.
Aussi, aussi, oui, parce qu'on met pas de masque, on n'est pas dans des faux semblants, et ça, ben les gens aussi en face le ressentent, je pense. Et du coup, les choses ont l'air comme ça de couler de source, mais c'est parce que je crois qu'on est en phase avec ce que l'on est vraiment, et c'est primordial. Et du coup, ça va aussi avec un truc. Souvent, on s'auto-censure et on se fait beaucoup de mal. On se fait beaucoup de mal. Donc voilà, je crois que c'est... Enfin voilà, je mets un peu tout ça dans le même pot. Et l'intuition, évidemment, fait partie des ingrédients dans ce pot magique-là pour nous aider à choisir la bonne route.
C'est amusant parce que tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas confiance en toi. Mais ouais. D'un autre côté, finalement, tu as confiance en ta petite voix. Et ce qui a fait qu'en effet, tu as fait des très grandes choses.
Ouais, tu as raison. En fait, je sais pas. Ouais, t'as raison. En fait, j'ai confiance en ça, mais souvent je me sens pas à la hauteur. En fait, ouais. Peut-être je rêve trop grand.
On rêve jamais trop grand. Il y a tellement de citations qui disent que justement il faut voir très grand.
Ouais, 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 c'est vrai.
Comment tu célèbres tes réussites?
Ben écoute, je crois que j'ai eu des célébrations multiples en fait. Il y en a vraiment eu qui ont été très comme des grandes lames de fond à l'intérieur, comme une vague qui te submerge, très profonde, très douce, très lente, mais qui t'englobe. Et j'ai eu vraiment pour le coup des feux d'artifice qui explosaient
à crier, à hurler, à ouais. Si j'ai, donc je pense que j'ai eu un peu les deux extrêmes. Ouais, je sais pas si j'ai une manière de célébrer.
Mais tu célèbres.
Ouais.
Ouais.
Mais il y a des petites célébrations quasi quotidiennes.
Ah bah c'est bien. Non mais c'est en fait c'est amusant parce que c'est une question que je pose à chaque à chacun de mes invités. Il y a beaucoup de gens qui me disent. Oh, je devrais célébrer, mais moi je trouve ça génial de célébrer.
Ouais. Bah oui. Franchement, je pense que c'est rien et ça fait tellement de bien.
Ah mais tellement.
Et les petites victoires, elles aident à aller vers les plus grandes en fait. Et après, c'est bien aussi d'être critique envers soi. Hein. Faut pas non plus se reposer trop sur ses lauriers, je trouve. Il faut aussi être capable de se regarder et de se dire, ouais, là, non, là, non, ouais. C'est pas bien. Mais effectivement, quand on a quelque chose qu'on estime réussi ou qui nous apporte du bonheur, le souligner, c'est bien.
Ouais. D'ailleurs, tu vois, on a initié un nouveau rituel avec mes enfants le soir quand on dîne, c'est se dire de quoi on se réjouit.
Ah,
et
oui.
Et c'est vrai, en fait, c'est marrant parce que au début, c'est moi qui avais lancé l'initiative et là hier soir, mon fils il me dit "Maman, on n'a pas fait de quoi on se réjouit aujourd'hui."
Ah, c'est génial.
Et ouais, et alors ma fille pour le coup est plutôt beaucoup plus positive que lui qui dit "Oh, qui râlait et tout." Et en fait, maintenant du coup tous les soirs, on se dit "OK, de quoi on se réjouit et je trouve ça génial parce qu'en fait, bah plus tu te réjouis, enfin plus tu mets du positif dans ta vie, plus tu vas avoir le positif. Et je suis trop contente de leur avoir donné ce goût-là parce que, et comme tu disais, en effet, c'est à force de petits succès qu'on arrive à atteindre des grands succès. Mmh. Et c'est pareil pour le positif, c'est un micro truc juste genre t'as mangé tel truc à la cantine, t'es content et qu'après qui te permet de dire bah voilà ça c'est super positif et de se dire que finalement dans chaque journée, même dans la pire des journées, il y a toujours un truc positif quoi.
Ouais, toujours. Ouais. Des fois il est bien caché, j'avoue.
Oui.
mais il y en a toujours, c'est vrai. Non, puis c'est une vraie force de réussir à le ressortir parce que c'est ce qui met de l'essence dans le moteur pour continuer à avancer.
Exactement.
En fait.
Ouais, et puis après tu te rends compte que c'est vraiment une gymnastique de l'esprit,
oui.
c'est de se dire bah voilà, oui. OK, c'est vraiment la merde, mais où est-ce qu'il est positif dans tout ça ?
C'est ça. Ça peut pas être pire.
C'est ça, ouais. Exactement. Je suis encore en vie, donc c'est bon.
Ouais.
À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi ?
Ben voilà, je vais retourner sur cette course là aux Deux Alpes. Où, ouais, pourquoi pas moi la course au podium et aux victoires. Et puis un petit peu, peut-être aussi un petit peu là avec mon Tour de France à vélo.
Donc là, c'était cet été.
C'était cet été, ouais, c'était du 25 mai au 3 juillet, et où je me suis dit j'ai ce rêve. Ben je vais le faire. Alors c'est pas exactement du pourquoi pas moi, mais un peu quand même quoi. C'est dans le sens où je pense que quand on se dit cette phrase pourquoi pas moi, c'est le moment où on est prêt à faire le petit pas dans le vide et à partir à la découverte de soi-même un petit peu et de ce qu'on est peut-être capable de faire, mais en tout cas on a envie de savoir si on en est capable ou pas. Et ben voilà, le Tour de France à vélo là, c'était un
Donc
peu
là, ça
aussi.
Donc là t'étais toute seule.
Ouais, solo,
seul avec ton vélo.
Ouais. Et j'ai donc dessiné mes étapes en janvier et au mois de mai j'étais sur mon vélo et honnêtement les premiers tours de roue, je me suis rendu compte que c'était énorme, enfin que c'était grand la France.
T'es partie d'où et t'es arrivée où?
C'était une boucle donc départ arrivée d'Étaples-sur-Mer.
Okay.
Voilà mon village de naissance et. Et en fait, ouais, ça met un peu le tournis, hein. C'est immense et je me suis rendu compte de cette immensité et je me suis sentie microscopique. Et tu vois, on parlait des petites victoires, bah là, c'était petit tour de roue après petit tour de roue. Et au final, ça s'est fait, quoi. Tu vois, les 5600 kilomètres.
Sachant que, rappelons-le, au mois de mai cette année, il a fait une chaleur de bœuf.
Ouais. Pendant la canicule, j'étais... dans la vallée du Roussillon. Là, va. mais
il y a des moments où tu t'es dit je vais arrêter.
Non, il y a des moments où il y a eu évidemment des hauts des bas nanana, mais j'avais la certitude en moi que je le finirais pas au départ. Pas au départ. Mais au départ, j'étais plus... Bah, c'était l'inconnu. Donc, j'étais un peu tendue des pattes arrière parce que je me demandais dans quoi je m'embarquais. Passer les Alpes, je savais que je finirais. Voilà, je physiquement, j'avais passé les... Enfin, je savais que mon corps pouvait m'emmener au bout. Et alors après, voilà, il fallait que le vélo tienne, je l'entretenais. Il fallait pas se blesser, il fallait continuer à être assez vigilante pour que, voilà, que tout le monde arrive à bon port. Mais enfin, mon vélo et moi, du coup. Mais non, j'avais une espèce de certitude impalpable, mais comme un espèce de tuteur là à l'intérieur qui je me disais non, j'arriverai.
Qu'est-ce qui t'a animée dans le fait de faire le Tour de France en vélo?
La curiosité, le goût du voyage, de la liberté, les rencontres.
Parce que du coup, tous les soirs, tu dormais chez personnes.
Chez l'habitant, ouais, chez l'habitant, des gens des fois que je connaissais. Mais aussi des illustres inconnus on s'était contactés via les réseaux. Et ouais, vraiment l'idée de voyage, l'idée d'aventure. Enfin, c'est pas une aventure de dingue non plus. Je suis restée en France, mais en même temps, puis je sais pas. J'avais une envie forte, tu vois. Et du coup, ça m'a donné beaucoup d'énergie.
À quel moment, du coup, t'as eu l'idée de dire, tu t'es dit, allez, je vais. Enfin, à quel moment ce rêve a jailli en toi?
En fait, j'avais fait une course d'endurance comme ça, d'ultracyclisme en Corse, et plutôt sur un pari. Et en fait, donc là, c'était plus une notion un peu de défi sportif, psychologique et tout. Et je me suis rendu compte que j'avais adoré cette notion de voyage, de découverte et d'itinérance. Ça, j'avais beaucoup aimé. Et j'avais envie de faire quelque chose de plus grand, plus long. Je voulais partir peut-être à l'étranger, justement, ajouter un peu d'exotisme et tout. Et puis finalement, la Covid, bim bam boum, ça change un peu la vision des choses. Et je me suis dit qu'en fait, le mieux, c'était de faire le tour de la France et qu'on habitait un pays vraiment très, très beau. Et voilà, l'idée a germé. J'en ai parlé d'abord à mes proches, mes tout proches, et ils m'ont dit que c'était une idée de barjo, mais que j'étais suffisamment barjo pour y arriver. Et puis à Nouvel An, là, j'ai un ami enfin qui fait de l'ultracyclisme tout le temps, qui est venu faire Nouvel An à l'Alpe d'Huez, et je lui en ai parlé, et je savais qu'en lui parlant, c'était un peu la première pierre et que ça partirait de là. Et effectivement, il m'a mis en relation. J'ai eu des aides pour le vélo, pour le Garmin, enfin tous ces trucs. Et puis du coup, ça y est, c'était concret.
T'as décalé par rapport à tes jours d'arrivée ou t'as vraiment été...
Non, j'ai réussi à tenir. Ouais. J'ai réussi à tenir. Oui et non. Disons qu'il y a eu une grosse tempête de vent en Corse. Donc, j'ai pris un jour de repos en Corse. Il y avait 40 nœuds quand même. Je me le prenais de face. Hein. Ah oui aussi. Dans le dos, j'aurais pris le départ.
Tu volais là. Alors là, c'était bon. Voilà. Ton rêve d'astronaute, c'était parti.
Ah ben voilà. Ouais. Là, j'en faisais deux d'un coup. Mais du coup, là, évidemment, malheureusement, il était de face. Donc là, j'ai pris un jour de repos. Donc à partir de ce moment-là, j'avais un jour de retard.
Ouais.
Et ça m'embêtait parce que j'avais nuit au Mont-Saint-Michel dans la maison des pèlerins. Donc, si je décalais d'un jour, je perdais ma nuitée sur l'île, quoi, enfin, ouais. Dans le mont. Donc ça, c'était génial. Et il y avait aussi, j'arrivais le 1er juillet à Trouville, et c'était là où habite mon ami, c'était le jour de son anniversaire. Donc en fait, je m'étais dit, mince, alors du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait deux étapes en une pour la rentrée dans les Pyrénées. Parce que je m'étais fait une petite étape, un peu de récup avant d'attaquer la traversée des Pyrénées. Du coup, celle-là, je l'ai fait péter. J'ai fait un deux en un. J'ai fait 195 bornes ce jour-là avec plus de 2000 de dénive pour arriver à Font-Romeu. Et du coup, j'ai rattrapé mon timing et ensuite j'ai réussi à tenir tous les jours la cadence et... Voilà.
Trop bien.
Ouais, c'était cool. Mais j'avais des belles carottes quand même. Hein.
Oui, c'est clair.
Un dodo
ouais.
Au Mont-Saint-Michel et puis fêter l'anniversaire de ma pote d'enfance, c'était quand même cool.
Ouais, donc, c'est vrai. C'est quoi pour toi la réussite?
La réussite, je pense que... Bah déjà, elle est propre à chacun, clairement. Et je crois que réussir, c'est avoir ce sentiment de fierté quand on a fait quelque chose. à ce moment-là, on peut dire qu'on l'a réussi. Voilà.
Ouais, non, c'est bien. À ton avis, qu'est-ce que la petite Ophélie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
J'espère qu'elle me dirait « Continue !» je crois qu'elle me dirait « Reste un peu plus dans la nature, t'es souvent en ville. Ça me manque un petit peu. » Je crois qu'elle me dirait « Tu peux pas mieux te débrouiller là, parce que quand même, tu t'organises trop mal, on n'a jamais le temps. » Mais je crois qu'elle me dirait « Bon, à part ça, ça va, tu te démerdes bien. C'est cool, on vit des bons trucs.
» On dit que dans la vie, quand on fait des choix, on fait des renoncements. Pour toi, quand du coup, tu as eu cette carrière de grande sportive, ça a été quoi pour toi tes renoncements?
Bah alors tu vois, c'est rigolo, ça me fait penser aussi à cette réflexion que beaucoup de gens ont en disant « Oh là là, quand on est sportif de haut niveau, il y a beaucoup de sacrifices. » Bah je trouve pas, en fait. Et du coup, j'ai pas l'impression d'avoir renoncé. Moi, j'ai été happée, je dirais, et j'ai suivi vraiment ce que j'avais envie et du coup un peu ce que me disait mon cœur, quoi. Alors j'ai pas l'impression d'avoir renoncé à grand-chose. J'essaie d'imaginer ma vie si j'avais pas fait de ski. Bon, j'aurais peut-être fait un peu plus la bringue, j'aurais bien que je la faisais quand même un petit peu. Mais ouais, j'aurais été un petit peu plus casanière. Je serais sûrement une meilleure cuisinière. Mais non, je sais, franchement, j'ai pas l'impression d'avoir renoncé. Au contraire, j'ai l'impression qu'en ayant vraiment suivi cette voie, j'ai eu plein de cadeaux. Tu vois, donc je sais pas répondre à ta question en fait.
Comment t'as géré du coup jeune maman sportive de haut niveau
Bah moi j'ai géré comme je pouvais, mais c'est surtout j'ai pu faire ça parce que j'avais la famille autour, le papa de ma fille qui était qui me soutenait à fond, et qui a complètement intégrer mon rêve dans sa vie finalement, et puis mes parents et ma belle-mère qui ont été présents pour nous aider à élever Lilou, et puis non donc en fait là pour le coup je vais pas mettre la cape de super-héros parce que toute seule je l'étais pas du tout, ça a été vraiment la famille entière qui s'est retrouvée embarquée dans ma galère en fait, mais en tout cas on a une famille soudée. Ouais, même si aujourd'hui je suis plus avec le papa de Lilou, on est soudés. Ah. Quoi qu'il arrive, on est ses parents et
c'est pour toujours.
Bah ouais, carrément. Ah. Ouais.
C'est quoi la plus grande difficulté que t'as eu à gérer dans ta vie, à affronter?
Mais je crois que je suis en train de l'affronter en ce moment même où on se parle. Ouais. Je suis en train d'affronter l'acceptation que mon père n'est pas immortel.
Ouais.
Et c'est dur.
Comment tu fais du coup pour
J'essaie d'être très pragmatique, je dirais, de ne pas m'imaginer le pire, parce que je me contente des choses concrètes en fait, et d'avancer petit à petit. Je me dis j'applique un peu ce que j'appliquais quand je me blessais, par exemple, à mon père, et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs ce matin. Je lui disais, tu sais, c'est ta nouvelle normalité, mais c'est le temps que tu guérisses en fait. C'est comme quand on se blesse. Voilà. Donc en fait, sauf que là, évidemment, l'enjeu est tout autre. Hein, on va pas se mentir. Mais je me dis aussi triste que ça puisse paraître, c'est aussi la vie en fait. Et moi, je l'aime la vie. Donc en fait, je suis un petit peu obligée d'accepter. Enfin, voilà, ces règles du jeu, elles sont comme elles sont. Et voilà, c'est ce que je me dis, mais j'essaie d'être présente pour les personnes qui comptent le plus pour moi, donc en l'occurrence mon papa, et j'essaie d'être à la hauteur aussi de ce qu'il m'a enseigné et transmis. Voilà, j'essaie d'être honnête et présente quand je peux. Je fais un peu ce que je peux.
On fait toujours quand on fait ce qu'on peut avec tout son cœur, c'est toujours au mieux.
C'est ce que je me dis. Voilà.
C'est quoi tes plus grandes peurs quand tu te lances des nouveaux défis?
L'abandon. Jeter l'éponge. Ouais, tu vois, je parce que c'est pas joli en fait. Voilà, il y a aussi un truc rigolo, je déteste faire des demi-tours. C'est des fois il faudrait faire le demi-tour concrètement, tu vois, dans la vie, faire un demi-tour sur une piste de vélo par exemple. Mais je déteste ça. Je ne le fais, je fais jamais. Je sais que je me mets dans une galère, mais je préfère avancer tout le temps. Bon, donc j'imagine que le demi-tour, le retour en arrière, voilà, me fait peur aussi, puisque c'est un vrai rejet pour moi.
Depuis toujours.
Ouais. J'aime pas ça.
Il y en a qui aiment pas revenir passer sur mes pas. Même endroit.
Ouais, voilà. Quand je vais faire quand je vais courir, je me débrouille pour faire des boucles. Un aller-retour, ça me saoule, tu vois.
Ouais.
Voilà, donc j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose caché là-dessous, là. Et l'abandon. C'est pas que ça me fait peur, mais j'aime pas. Et j'espère ne pas, jusqu'à présent, bon an, mal an, j'en ai pas vécu beaucoup des abandons. Enfin, quand j'ai abandonné, c'est que physiquement, je ne pouvais pas être présente. Mais sinon, j'ai réussi à chaque fois trouver les ressources. Donc voilà, je sais bien qu'un jour je vais me prendre le mur, hein. Mais
pourquoi?
Ben parce que j'imagine que à vouloir toujours voir où sont la limite, un jour on la trouve.
Sauf si on est aligné avec soi-même.
Ouais. Oui, alors oui. Ah oui, là je parlais plus physiquement pour le coup. Ouais. Bien que effectivement, quand la tête est bien présente, nos ressources physiques sont quasi inépuisables, c'est vrai. Mais bon, voilà.
C'est une nouvelle sportive qui te parle. Hein. Jusqu'à il y a peu, c'était la grosse blague de Charlotte et le sport. Donc, de quoi t'es la plus fière aujourd'hui?
Ah, de Lilou. Bah oui. Mais oui, en plus je suis fière de. Elle est loin d'être parfaite. Non, mais je trouve que je suis fière d'elle parce que je trouve qu'elle est une jeune femme rayonnante et je trouve qu'elle s'assume vachement plus que moi à son âge. Enfin, je sais pas. Je la trouve forte.
Elle a quel âge du coup?
Elle a 23 ans.
Donc l'âge où t'étais maman.
Oui. Bah d'ailleurs, on a eu une discussion où je disais, Lilou, je ne suis pas prête. Je suis pas du tout prête à être grand-mère. Ce à quoi elle m'a répondu, t'inquiète, je suis pas prête à être maman. Bon, donc c'est bon.
C'est marrant
qu'ils
disent que parce que bon, finalement, être maman à 23 ans, c'est un.
Oui, bah je sais. Non, mais c'est fou. Mais il y avait une part d'inconscience. Moi, je crois aussi dans mes trucs, mais. Encore une fois, je suivais les élans du cœur et après j'arrangeais le truc, tu vois, mais c'était pas structuré avant de faire tout ça, quoi. Ouais. Enfin bon, bref. Mais non, bah, par exemple, voilà, c'est moi, cette fuite en avant parce que j'ai pas trop confiance en moi, j'ai pas l'impression qu'elle se soit comme ça chez elle. Je la trouve brillante en fait. Bon là, je lui lance des fleurs, elle va être pénible.
Elle ferme les yeux en mode maman.
Je sais, pardon, mais bouge-toi les oreilles. Mais...
C'est la première fois que je fais une interview avec une personne à côté. Je trouve ça chouette parce que du coup, ça crée les petits moments.
Non, puis bah j'imagine c'est délicat parce que je parle de toi, donc là. Non, mais c'est vrai. Je suis très fière d'être sa maman.
C'est chouette. Si tu croises quelqu'un dans la rue qui t'entend parler de ton palmarès et qui te dit « mais tu n'en es là que grâce à de la chance », qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre ?
Ben que il a en partie raison, parce qu'il faut quand même une bonne étoile, mais que c'est quelqu'un qui ne connaît pas le sport. C'est tout. Après, je lui dirais que c'est pas si simple, qu'il voit... Il voit les choses très simplement, mais que l'aventure est beaucoup plus riche que ça et que justement, c'est ce qui fait toute la beauté du sport. Et je pense que c'est aussi ce pourquoi le sport est un langage universel. C'est que on va voir quelqu'un s'exprimer à travers son corps, un mouvement, une énergie qu'il va déployer. Et ça va nous toucher parce que ça va développer une avalanche d'émotions. Et tout ça parce qu'en fait, quand il bouge, quand il donne, quand il offre au spectateur sa performance, en fait, il y a toute son histoire. Le sportif offre toute son histoire. Et c'est ça, je pense, qui nous touche. Et voilà, donc je lui dirais, je pense que vous regardez mal le sport à la télé, allez dans un stade, ouvrez les yeux, les oreilles, ouvrez vos capteurs, vous verrez que il faut de la chance, mais pas que.
Ouais. C'est quoi les plus grandes difficultés selon toi quand t'es un grand sportif?
Peut-être, voilà, ce décalage, comme tous les grands passionnés, on a tendance à être un peu exclusif et du coup on se retrouve un petit peu décalé par rapport à des personnes qui ont des vies plus normé en fait. Et ce qui est très très dur en tant que sportif, c'est quand on ne l'est plus, c'est cette bascule. Moi souvent je parle de mu parce qu'il faut poser ce costume de champion, et avec beaucoup de bienveillance, plein de gens vous le remettent sur le dos et c'est terrible parce qu'on peut pas du coup continuer en tant que personne à évoluer, à grandir. On nous réenferme dans cette posture là de champion, et c'est vachement dur parce que bien sûr c'est très agréable, c'est le confort, mais je crois qu'il faut absolument mettre beaucoup d'énergie à laisser ce costume au placard et à dire attendez, je ne renie pas tout ce que j'ai fait, mais je suis aussi tout ça. Ouais. Tout ça quoi? Tout ce que je n'ai pas encore fait et que je vais écrire. Voilà, je crois que c'est ça c'est dur.
Et ça d'ailleurs, quand au moment de la fin de ta carrière sportive, tu t'es dit est-ce que tu avais une idée de la suite, parce que finalement c'est quand même un vrai enjeu?
J'avais pas trop d'idées, bah justement je me disais ah mon instinct, hein, ouh t'es où? Non, mais par contre, encore une fois, j'ai quand même agi très instinctivement, puisque je suis partie 6 mois en sac à dos en Amérique du Sud l'hiver d'après. Donc ça a été vraiment une fracture et une coupure forte pour clôturer ce gros chapitre. Et
t'es partie toute seule?
Non, avec mon compagnon de l'époque. Et à ce moment-là, je crois que c'était vraiment la bonne chose à faire, parce que quand je suis revenue, pour le coup, moi, j'avais fait ma mue, et je pense que quand les gens me voyaient effectivement la championne, mais ils sentaient que c'était pas que ça, et ils pouvaient pas me coincer dans mon passé. Et du coup, je trouve que c'est plus facile du coup pour se projeter vers l'avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les sportifs, ce qu'on appelle les doubles projets. Donc, on arrive à mener carrière sportive et scolarité, ou carrière sportive et carrière professionnelle. Bon, moi, je suis quelqu'un d'exclusive, j'arrivais pas à faire les deux. Donc, en fait, je voulais vivre à fond mon sport, boucler le truc, vivre à fond la suite. Voilà.
Et c'était quoi du coup ton premier projet professionnel suite à...
C'était l'événementiel. Ouais. Ouais, 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 parce que j'ai eu la chance de vivre des moments extraordinaires et je me disais oh, j'aimerais bien à mon tour offrir ça. Voilà, donc c'était construire des événements pour offrir des souvenirs aux participants.
Trop chouette. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui?
Oui, vraiment cette histoire d'autocensure. Ouais, ben il m'a 45 ans hein pour assumer ce truc. Donc j'aurais aimé qu'on me l'explique, j'aurais aimé surtout être capable de l'entendre.
Quand tu dis autocensure, qu'est-ce que tu veux dire par là?
S'empêcher de réaliser les choses parce que voilà, on se dit non, c'est pas pour moi. Je le ferai plus tard. Non, je suis pas capable. Parce qu'en fait, si on fait une liste d'excuses ou de prétextes pour pas faire les choses, elle est toujours beaucoup 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 plus longue que celle pour faire les choses. Mais si dans la colonne pourquoi le faire, il y a juste, je pense que le mot envie, le mot plaisir, le mot rêve, voilà, si ça apparaît, ça balaye tout en face.
C'est marrant parce que tout à l'heure j'étais sur mon scooter pour aller avant qu'on se voit. J'étais sur mon scooter pour aller nager, me faire mon petit kilomètre du jour, et je me disais en effet que en fait quand l'envie est plus forte que la peur, en effet même si la liste de peurs et les peurs sont énormes, en fait il faut y aller, se mettre un coup de pied aux fesses et go quoi.
Ouais, complètement. Et puis à ce moment-là, quand t'es dans cette logique-là, les peurs, les appréhensions, en fait on les voit différemment. Puis on les voit plus comme des trucs empêchants, on les voit un peu comme, tu sais, les potes relous qui te font fais gaffe, ok. Et en fait c'est bien de les avoir parce que ça nous permet d'être mieux préparés et du coup d'être finalement plus
plus fort au moment où on va se lancer. Donc en fait, plutôt que de voir les peurs comme des freins, moi je trouve vois que les, enfin quand t'es dans cette logique d'envie extrême, hein, je vois les peurs et les angoisses plutôt comme des étapes à passer qui vont finalement nous aider à construire le projet et c'est des comme les piliers de la lampe de rancement.
Ouais.
Tu vois, je le vois plus comme ça.
Ouais. Carrément. Et là, tu dis que du coup, ça c'est que l'auto-sabotage, c'est l'auto-censure, pardon, plutôt que sabotage.
Et ben, ce serait de lire que la colonne. Pourquoi je le fais pas. Ouais.
Et ça, ouais. Du coup, tu dis que c'est quelque chose que t'as découvert à 45 ans.
Oui, oui, oui. Franchement, avec ce tour de vélo. Ouais.
C'est marrant parce que quand on écoute ta vie, on peut pas.
Bah oui. Non, mais je sais bien.
Après,
je
l'ai peut-être formalisé.
Je suis peut-être pas crédible, mais je vous jure que c'est comme ça que je l'ai vécu.
Mais oui. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je crois que c'était pas un conseil en fait, et je vais me tourner vers mes parents, et je crois que la meilleure chose que j'ai reçue, c'est leur amour, parce qu'en fait, ils m'ont toujours suivie en fait, et je voyais. Surtout dans les yeux de ma maman, des fois de l'appréhension, mais je voyais qu'il y avait plus d'amour que d'appréhension, et du coup, elle me disait, elle me le disait pas, mais elle me faisait sentir que, ben, vas-y. Je vais rien dormir de la nuit, mais vas-y.
Parce qu'en fait, t'as commencé à faire du ski, enfin, entre guillemets, au niveau, ouais. T'étais pas encore à l'Alpe d'Huez.
Ah, si, j'étais toujours à l'Alpe d'Huez,
À partir de quel âge tu étais?
On a déménagé à l'Alpe, je devais avoir une dizaine d'années.
D'accord.
Ouais. Et du coup, mais les gens n'ont pas compris pourquoi je m'engageais dans ce sport. J'étais jeune maman, et donc ça va. C'était intellectuellement deux trucs opposés. Tu vois, une maman, ça doit être à la maison, ça doit protéger son enfant, etc. Donc ça doit être tout le temps présent. Et moi, je leur dis, les gars, je vais partir, je vais faire un truc où chaque week-end, je mets mon intégrité physique sur la table. Donc c'est pas du tout des valeurs maternelles, tu vois.
Oui, parce qu'en plus le ski cross c'est costaud quoi.
Oui oui, il y a un vrai engagement physique, et puis tu peux pas, une fois que t'es lancé dans la course, il y a pas vraiment de place au doute, ou alors ça devient très dangereux. Donc en fait, j'étais socialement, le regard de la société sur moi, c'était la jeune maman, et je pars en fait dans un truc qui est à l'opposé de ce qu'on attend d'une jeune maman. Pas grand monde a compris, en fait. Ouais. Pas grand monde a compris.
Mais tu es alignée avec toi, donc go.
Ouais. Et puis, je pense que j'ai, à mon tour, été quand même aussi une maman correcte, parce que, encore une fois, j'ai donné plein d'amour. Non, mais voilà. Et puis souvent, on m'a demandé, et je disais, vous savez quoi, si j'arrive au moins à transmettre ça à ma fille, à savoir... qu'elle assume ses choix, ses envies et qu'elle les fasse, je pense que je l'aurais bien élevée. Et donc le dire c'est bien, le faire et le montrer c'est mieux. Donc voilà.
On arrive parce que tu l'as regardé, vous vous êtes regardées toutes les deux dans le blanc des yeux avec un grand sourire, avec plein d'amour. C'est quoi tes prochains défis?
Là professionnellement clairement c'est les magazines. Hein, on parle vraiment de l'immédiat. Mais c'est un gros défi, donc c'est le premier qui me vient en tête. Et après, écoute, je n'en ai pas encore, mais j'ai hâte qu'il arrive, qu'il me prenne le cerveau là, ce prochain défi. Et j'aimerais que ce soit à nouveau en solitaire et en vélo. J'ai vraiment adoré cette aventure. Ce sentiment de liberté était extraordinaire. Mais voilà, je crois que il faut que l'envie m'attrape au vol là, et pour l'instant j'ai rien qui me vient tout de suite là maintenant, mais j'ai trop hâte que ça arrive.
Étape par étape, c'est le cas de le dire.
Ouais, exactement.
Et s'il y a des personnes là qui nous écoutent et qui ont encore un peu peur pour se lancer, qui ont leur pourquoi pas moi, mais qu'est-ce que t'as envie de leur dire?
Mais je vais me répéter, mais allez-y, foncez. C'est si, au fond de soi, de toute manière, si vraiment on s'écoute, on le sent. Et si vous le sentez, allez-y, parce que franchement, les regrets, c'est lourd. Les regrets, c'est pas bien. Mais par contre, les souvenirs, c'est magnifique. Donc faut les voilà. J'ai fait un petit film, et en fait, il fallait la petite punchline, et c'est transformer ses rêves en souvenirs. Voilà. Alors j'adore. Vraiment, c'est ça qu'il faut faire, et je vous encourage tous à le faire. Et si je peux être la petite pitchinette qui vous fait basculer dans votre aventure. Moi, je serais la plus heureuse du monde.
Il y a beaucoup de mes invités qui disent qu'en fait, si tu te dis, bah, finalement, chaque expérience, enfin, chaque chose de la vie est une expérience, mm-hmm. le vivre comme une expérience, comme vivre la vie comme une aventure, bah, il n'y a pas d'échec, en fait. Tu t'appréhendes les choses de façon complètement différente,
absolument.
Et que ça...
Puis il faut partir du principe que c'est quoi un échec finalement ? Un échec, c'est quand on a tenté quelque chose et ça n'a pas abouti à ce qu'on attendait, mais ça aboutit quand même à quelque chose. Et du coup, c'est un aboutissement en soi, et c'est mieux que de ne rien faire. Rien faire, c'est le néant, c'est mort. Donc non, faut vivre.
Mais tellement. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous ?
Alors là, ouais, j'ai lu. Alors on m'a offert le Tour de la France de Daudet. Alors bon, bah forcément, c'était un peu d'actualité. Mais sinon, je vais déjà vous dire que mon auteur préféré, c'est j'ai un trou de mémoire. Mon Dieu, Philippe Dian. Et que sinon, le dernier livre qui m'a vraiment tourné un peu le cerveau, c'était Homo Sapiens. C'est pas récent, hein. Mais voilà, s'il y a des gens qui ne l'ont pas lu, je pense que moi, c'est une bonne lecture.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ?
Est-ce que j'ai le droit de faire juste un gros merci collectif ? Non. En fait, non, ça allait être bateau, mais le premier truc qui m'est venu, c'est merci la vie. Mais ça fait très bateau. Après, j'ai tout de suite pensé à ma famille, ma fille qui est là à côté. Mais en vrai... ouais, je crois souvent je parle de gratitude et du coup merci d'avoir ce sentiment de gratitude souvent. Non mais
non, c'est chouette, super. Et ben un grand merci Ophélie. Donc je mettrai merci les liens pour suivre toutes tes aventures, tes nouveaux défis, pour si les gens ils ont la flemme d'aller dessus sur le blog, tu peux nous donner le nom pour te suivre, c'est Ophélie David.
Oui, c'est Ophélie David sur Insta, Ophélie David Rax, mon nom de jeune fille, sur Facebook, LinkedIn pareil, Ophélie okay. David, enfin j'ai pas de pseudo.
Ok. Tu n'as pas de
plus court.
Super. Merci beaucoup.
Merci à toi, Charlotte.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine.